Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, nous sommes, comme à chaque fois, très heureux de voir notre amphithéâtre plein. Donc, merci d'être venus. Merci aux personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et donc, juste avant de commencer, je vous annonce nos prochaines conférences. Le mois prochain, le 2 avril, nous recevrons notre collègue Florent Leclerc, qui est chercheur ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui nous présentera une conférence intitulée « Énergie noire et intelligence artificielle ». Donc, pour cette conférence, les réservations, c'est comme d'habitude à partir de demain matin. Le 7 mai, nous recevrons Michel Mayor de l'Université de Genève, Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, qui nous présentera une conférence intitulée « D'autres mondes dans le cosmos, la recherche de planètes similaires à notre Terre et abritant peut-être la vie ». Et puis nous finirons l'année universitaire avec une dernière conférence par notre collègue de l'IAP, de nouveau Arnaud Cassan, et nous reprendrons le 3 septembre avec une conférence de notre collègue de l'Observatoire de Côte d'Azur, Éric Lagadec. Et ce soir, eh ben, nous sommes très heureux, très honorés de recevoir Gérard Mourou pour cette conférence. Gérard Mourou, vous êtes physicien, vous travaillez dans le domaine des champs électriques, des lasers. Alors, vous avez fait vos études notamment, j'ai regardé, à l'université Pierre et Marie Curie, une université qui nous est chère puisque c'est l'une des autorités de notre laboratoire ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous avez travaillé au laboratoire d'optique appliquée à Paris-Saclay, passé de nombreuses années en Amérique du Nord en travaillant à l'Université de Laval au Québec, l'Université de Californie à San Diego, de Rochester aux États-Unis, de Michigan, où vous avez créé et dirigé le laboratoire des sciences ultra-rapides. Et puis vous êtes revenu dans les années 2000 en France, où vous avez pris la direction du laboratoire d'optique appliquée et créé l'Institut de la lumière extrême, avec notamment le laser haute intensité Apollon que vous avez développé à Paris-Saclay. Donc, durant votre carrière, vous avez eu de nombreuses contributions, de nombreux travaux sur les lasers, notamment la filamentation laser femtoseconde. Et puis, bien sûr, vous êtes co-inventeur de la technique pour créer des impulsions laser ultra rapides et ultra intenses, donc avec votre étudiante à l'époque, Donna Strickland, canadienne, avec qui vous avez partagé donc, le prix Nobel de physique en 2018. Donc, je sais que vous êtes beau, très sollicité. Donc, de nouveau, merci de nous présenter cette conférence. Donc, eh ben, je vous en prie.
Bon, vous m'entendez comme ça? Oh, très bien. Bon, mais écoutez, ça me fait un très, très grand plaisir d'être ici. J'avoue que j'ai trouvé ça très, très confortable quand Guillaume m'a proposé de donner ce séminaire ici à l'Institut de physique, d'astronomie de physique, non, l'astrophysique de physique. Et non, bah, c'était à côté de chez moi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai dégusté en venant de chez moi à ici? Il pleuvait des hallebardes et c'était vraiment... Mais enfin, bref, je ne regrette pas d'être venu. Et ça me fait très, très plaisir. Donc, je vais vous parler de lumière extrême. Hein, de lumière extrême, alors c'est la lumière laser, en fait. C'est un laser qui va émettre ça. Mais vous allez voir, on peut émettre des lumières avec une intensité, une puissance absolument extraordinaire. Et là, j'ai le plaisir aussi je présente toujours ma co-lauréate, mon ancienne étudiante, Donna Strickland, avec moi. Hein. Donc, voilà. Et donc, la lumière extrême, en fait, vous allez voir, c'est la lumière qui est capable de produire les puissances vraiment les plus élevées, les températures les plus élevées, les pressions les plus élevées. Tout ça, c'est avec la lumière, hein. Les pressions les plus élevées, les accélérations les plus élevées, et les champs électriques les plus élevés. Et c'est vraiment... C'est quand même un miracle de voir la lumière pouvant faire toutes ces choses-là. La lumière qu'on connaissait avant, le laser, bien sûr, c'était la lumière incohérente, hein, de milliards d'années. Et là, je montre toujours la lumière incohérente en montrant, par exemple, un marathon où on voit tous les coureurs qui sont vêtus de façon différente, qui vont dans la même direction, mais pas exactement. Ils sont pas synchronisés comme des militaires en train de défiler. Mais bon, et ça, c'est il y a un élément chaotique là-dedans qu'on va retrouver ensuite. Mais arrive Mehman en 1960. Mehman, c'est le premier qui a pu faire fonctionner, qui a pu, un outil, une lampe, mais cette fois-ci qui émettait pas de la lumière incohérente, mais qui émettait de la lumière cohérente. Et d'une façon relativement simple. Et après, c'est extraordinaire de voir ce qu'on peut faire avec de la lumière cohérente. Okay. Donc ça, c'est un laser. Hein. Bon, vous avez tous vu ça, bien sûr. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le laser, c'est bien sûr, c'est une très grande cohérence. Ça dépend lesquels, bien sûr. Mais par exemple, il y a des lasers maintenant qui ont une cohérence entre les longues de cohérence sur la distance Terre-Lune. Et ça veut dire il y a 10 puissance 14 cycles qui se répètent parfaitement, sans interruption. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai, la lumière, elle peut être cohérente sur une très, 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 très grande distance. Mais aussi, ce n'est pas celle dont je vais parler, parce que celle dont je vais parler, c'est la lumière est de quelques cycles. Hein. Vous verrez que ces quelques cycles, ils auront une puissance très, très, très élevée et avec laquelle on va pouvoir faire les choses très intéressantes. Voilà, donc ça, c'est le laser. Là, ça démontre la flexibilité du laser. Hein. Et donc, ce qui est extraordinaire, bien sûr, avec le laser, bien, écoutez, on peut prendre le laser pour faire des choses complètement différentes. Par exemple, on peut prendre le laser pour ralentir les atomes. En fait, c'est Ted Ashkin, la personne avec qui j'ai partagé le prix Nobel avec Donna, c'est lui qui a eu cette idée d'utiliser le rayon laser, la cohérence du laser, pour pouvoir ralentir les atomes, hein, pour pouvoir les déplacer. Et c'est cette... on utilise la lumière laser pour ralentir les atomes, mais aussi maintenant, on peut utiliser la même lumière laser, mais avec quelques cycles cette fois-ci, pour accélérer des particules. Vous allez voir, on peut faire ces deux choses qui sont complètement différentes. La première application, c'est ralentir les atomes, c'est-à-dire les refroidir. Hein, c'est-à-dire que des atomes, maintenant, qui se déplacent à une fraction de centimètre par seconde. On peut accélérer aussi les particules très près de la vitesse C, de la vitesse de la lumière. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, les lasers dont je vais parler sont des lasers, vous allez voir, extrêmement brefs, hein, qui sont composés de quelques cycles, hein, comme je le disais, et qui sont composés de... la durée de l'impulsion, c'est de l'ordre de la femtoseconde, hein, ou de plusieurs femtosecondes. Et alors, une dizaine de femtosecondes, c'est le temps... pour la lumière, qui se déplace à la vitesse de la lumière, bien sûr, pour se propager sur quelques microns, sur la distance d'une cellule rouge. Donc, c'est très court. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait des choses aussi courtes ? À quoi ça sert ? Mais on peut faire les choses, on peut utiliser des impulsions courtes parce que on peut l'utiliser comme un flash. Si pour regarder des électrons, des atomes, qui d'une façon très rapide, comme ils se déplacent et tout. Mais l'autre application qu'on peut faire, c'est qu'on peut produire de la puissance très très élevée. C'est-à-dire qu'avec un joule, qui est une toute petite quantité d'énergie, parce que vous prenez 1 million de joules quand vous prenez votre petit déjeuner, mais avec un joule, et si vous le produisez en une femtoseconde, vous produisez des puissances du pétawatt. Alors le pétawatt, il faut se souvenir quand même qu'une centrale nucléaire classique, c'est le gigawatt. Et donc le pétawatt, c'est 1 million de gigawatts. 1 million de... oui, 1 million de gigawatts. Et donc, ces impulsions, les impulsions qu'on peut produire maintenant, c'est au-delà du gigawatt. Donc, mais bien sûr, on les produit pendant une femtoseconde. Alors que, bien sûr, le réseau électrique vous donne un gigawatt constamment. Mais enfin, ça donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec la lumière, déjà. Alors, bon, on se souvient, bien sûr, que la lumière exerce une pression de radiation. Alors, si on prend cette impulsion de pétawatt, donc 1 million de centrales nucléaires, et qu'on le focalise sur la longueur d'onde, donc, on a des pressions qui sont absolument considérables, de l'ordre, j'ai essayé une fois de calculer ça, c'est des millions de tours Eiffel sur un doigt. Et ça, on peut développer ces pressions avec la lumière. C'est extraordinaire. Donc, ça nous permet maintenant d'aller... Alors, quand on parle d'optique, on parle de photons, et donc c'est la physique qui est associée avec ces photons, c'est souvent la physique moléculaire ou la physique atomique. Maintenant, on va oublier ça et ça sera plus la physique atomique, mais ce sera la physique subatomique, c'est-à-dire qu'on va faire la physique des noyaux, faire la physique des protons, faire la physique des électrons, peut-être des quarks, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la possibilité donc, de produire ces impulsions excessivement intenses qui peuvent nous fournir des choses comme les pressions les plus intenses, et puis, bien sûr, le champ électrique qu'on va voir plus intense. C'est la raison pour laquelle il y a énormément d'activités dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que nous avons eu le prix Nobel, bien sûr. Alors, lorsque le laser est né, lorsque Meman a fait fonctionner son laser pour la première fois, les intensités, c'est-à-dire les puissances par centimètre carré, l'intensité, était énorme pour était 10 puissance 8 watts per square centimètre, per centimètre carré. C'était énorme à l'époque. On se trouvait. On se trouvait ici, quoi. Alors, tout de suite, on a essayé donc d'augmenter, parce que bon, c'était bien sûr énorme par rapport aux lampes qu'on utilisait à l'époque, quoi. Tout ce qui émettait de la lumière à l'époque, c'était énorme. Mais on sentait qu'on pouvait aller beaucoup plus haut. On sentait qu'on pouvait avoir, on pouvait développer des intensités certainement très élevées. Alors on a commencé par, disons, modifier un peu le laser de façon à ce que ce qu'on appelle Q-switch. Bon, je vais pas me, mais on a pu augmenter les intensités de façon très importante, de façon très importante. Au début, dans les années 65, au début, on a pu aller assez haut. Mais au bout d'un moment, on n'a plus pu aller, on ne pouvait plus aller plus élevé, parce que c'était, il y avait ce qu'on appelle, bon, il y avait un espèce de on avait un espèce de plateau là où l'intensité, on ne pouvait plus aller au-delà d'un certain cap. Et alors, la raison était, la raison, c'était parce que le champ électrique du laser, quand le laser est dans ces eaux-là, est tellement élevé qu'on crée des dommages, dans les matériaux où le laser se propage. Donc, on ne peut plus aller plus haut. Et donc, on s'est arrêté là, donc pendant une vingtaine d'années, de 65 à 85, on est resté sur un plateau. Hein. Les intensités étaient de 10 puissance 13, 10 puissance 14, quelque chose comme ça. Et on ne pouvait plus aller plus loin, plus haut. Et oui, alors ça, c'est ça. Donc, je reviens un petit peu sur l'explication de la raison pour laquelle on crée des perturbations dans le matériau. C'est parce que lorsqu'on cherchait à amplifier, parce que avec ces intensités qui étaient très élevées pour l'époque, on découvrait des phénomènes nouveaux. Et un des phénomènes qu'on a découvert, moi j'étais jeune à cette époque-là, c'était le fait que l'indice de réfraction est une fonction de l'intensité, devient une fonction de l'intensité, alors qu'il ne l'est pas. L'indice de réfraction se balade dans l'air, etc. L'indice ne change pas, à moins de faire changer, bien sûr, la densité, etc. Mais si on ne change pas, la lumière dans un milieu donné a une vitesse donnée. Seulement si il y a un faisceau, le faisceau a quelques aberrations, ou bien exhibite des fluctuations spatiales. Eh bien, à cause du fait que maintenant l'intensité est une fonction de l'indice de réfraction est une fonction de l'intensité maintenant, eh bien ces fluctuations vont devenir très importantes et il va y avoir des surintensités qui vont se déplacer, qui vont se faire, et donc vous allez piquer les composants optiques. Hein. Donc donc on ne pouvait pas aller, à cause de cet effet là, le fait que l'indice de réfraction devient une fonction de l'intensité, eh bien on crée des effets qui nous empêchaient de développer l'intensité. Donc on était bloqué. Pendant 20 ans, on a été bloqué. Et donc, une fois, je faisais du ski. Enfin, je suis de la Savoie, je suis savoyard, et le ski, pour moi, c'est très important. J'étais avec ma femme, on skiait. On était très près de Rochester. J'avais lu un article qui m'a mis sur un article de ce que j'ai lu. Le lendemain, on skiait, donc, le lendemain, j'ai eu cette idée. Je vais vous le démontrer. Et tout de suite, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Et je dis à ma femme, Marcel, je dis, écoute, je crois que c'est ma dernière descente. Pour moi, je vais retourner au laboratoire. J'étais à l'université de Rochester à l'époque. Elle me dit, non, mais c'est pas possible, etc. Mais je dis, ah oui, il faut que je retourne. Il faut que je vérifie quelque chose. Et donc, je suis arrivé au sommet de la piste, et puis du tire-fesse. Et puis après, j'ai continué. Et bien sûr, on était avec des amis. Bien sûr, ma femme est rentrée avec ses amis. Et là, je suis arrivé au laboratoire, et il y a un de mes étudiants qui s'appelle Maurice. Je dis, Maurice, stop what we are doing. OK, voilà ce qu'on va faire maintenant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'était ça. C'était justement la façon de s'affranchir de ce problème d'optical breakdown, okay, qui nous empêchait d'amplifier les impulsions. Alors, l'idée, c'était ça. C'était, d'abord, on part toujours d'impulsions brèves qui sont fournies par un oscillateur. Dans tout ce que je fais, il y a un oscillateur qui nous fournit des impulsions brèves. Or là, c'était des impulsions de la picoseconde, hein, 10-12, un millième de milliardième de seconde. Maintenant, c'est long, mais avant, c'était court. Et donc, on prend une impulsion courte, et puis normalement, on essayait de l'amplifier là. Mais cette impulsion courte, dès qu'on l'amplifie, il y a de l'énergie. Et c'est là où il y avait des catastrophes qui se passaient, parce qu'on arrivait tout de suite à des intensités qu'on ne pouvait plus dépasser, sans mettre en danger les composants optiques. Et les composants optiques sont très chers en général. Et donc l'idée, c'était de prendre cette impulsion brève. Et puis, c'est une impulsion brève, bien sûr, comme vous le savez, a un spectre très large. Et donc de prendre l'impulsion et de la diffracter sur deux réseaux. Et ces deux réseaux, en utilisant ces deux réseaux parallèles, eh bien, on peut faire varier le chemin optique entre les couleurs. Entre le bleu et le rouge, par exemple. Et donc, ici, on sort avec une impulsion qui est plus longue, parce qu'on fait varier la distance entre... Il faut bien voir que une picoseconde, c'est quelques microns, hein, pour la lumière, pour se déplacer. Donc, quand on parle d'une impulsion de picoseconde, on parle d'impulsion de l'ordre de 300 microns. Quoi. Et donc... C'est très facile donc de rallonger l'impulsion avec ces deux réseaux qui se regardent. Et donc on prend ces deux et on fait varier la distance entre le bleu et le rouge. Donc on rallonge l'impulsion comme un accordéon. Et ensuite, cette impulsion, bien sûr, si on rallonge l'impulsion, on baisse l'intensité de notre impulsion. Et donc maintenant, avec les intensités, cette fois-ci, on a une impulsion qui a le même spectre, ça c'est important bien sûr, que l'impulsion brève, mais qui a une intensité, qui a la même énergie que l'impulsion brève. Mais cette impulsion maintenant va être dilatée, va être allongée de... Donc, on va passer d'une picoseconde à la nanoseconde, donc ça fait des millions de fois, hein. Un allongement très très important. Et là maintenant, l'intensité a baissé d'autant, et on peut amplifier le matériau, on peut amplifier l'impulsion sans l'endommager. Hein. Alors une fois qu'on a sorti de l'amplificateur, eh bien l'impulsion, bien sûr, cette fois-ci, elle n'a pas changé de durée, elle est toujours longue, mais elle a pu s'amplifier sans endommager le matériau. Et lorsqu'on sort de l'amplificateur, on va arriver maintenant sur les réseaux, des réseaux ici, qui sont en fait les conjugués de ces réseaux. Là, je les montre pas exactement comme c'est, mais enfin, donc qui font absolument, ils sont conjugués, ils font exactement l'inverse de ce qu'a fait les premiers réseaux. C'est-à-dire les premiers réseaux, ils rallongeaient, et maintenant ces deux réseaux-là vont comprimer. Ils vont comprimer parce que bon, on fait attention, bien sûr, il faut qu'ils soient identiques, etc. Ils vont comprimer. Exactement, ils vont remettre l'impulsion. L'impulsion va se retrouver avec la même durée, exactement, que l'impulsion courte de départ. Mais cette fois-ci, bien sûr, on aura 1 million de fois plus d'énergie. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, parce qu'on pouvait maintenant... Alors, maintenant, je reviens à ma courbe. Donc, en 85, on découvre le CPA, et maintenant, on peut aller au-delà du plateau, on reste plus sur le plateau, on peut s'élever en intensité. Et maintenant, les intensités qu'on obtient sont des intensités extrêmement élevées. Hein. Alors, tout de suite, et vous allez voir, bien sûr, quand on change d'intensité, eh bien, on va pouvoir faire des choses absolument complètement différentes et des choses des fois extraordinaires. Et aussi bien pour des choses pour la science, mais aussi pour la société. Vous allez voir. Donc, lorsque on va passer maintenant, on va augmenter l'intensité, et la première chose qu'on va faire, c'est par exemple, on va pouvoir faire du micro-machining. Mais c'est important parce que c'est la base de... Vous savez que maintenant, on peut faire l'ophtalmologie avec les impulsions. Avant, les impulsions étaient longues, mais quand elles se sont retrouvées brèves, la précision de l'ophtalmologie qu'on peut faire est absolument fabuleuse. C'est-à-dire qu'on peut travailler la cornée, on peut faire des choses extraordinaires. Et donc, c'est maintenant, il y a des millions de personnes qui ont des opérations dans l'œil avec des lasers femtosecondes. Je vous montrerai un petit peu. Et ça, bien sûr, c'était excessivement important. On va dans le vert, donc on quitte le violet, là, on pénètre dans le bleu. Mais on va dans le vert. Et dans le vert, ce qui se passe, c'est que maintenant, le champ électrique de ces impulsions est absolument énorme. Okay. Et donc, la vitesse des électrons, normalement, dans le champ électrique ordinaire, est très faible. Hein. Elle est très faible. Mais là, elle va être relativiste maintenant. Et donc, bien sûr, ça va conduire à des phénomènes et des applications complètement différentes. Et si on augmente encore les intensités, alors là, ce n'est pas seulement les électrons qu'on va pouvoir déplacer à la vitesse de la lumière, mais ça va être aussi les protons, hein, les ions aussi qui vont se déplacer à la vitesse de la lumière. Et donc aussi là, on va avoir des applications extrêmement importantes. Ensuite, si on augmente encore l'intensité, on arrive à l'intensité tellement élevée qu'on fait le breakdown du vide. On décompose le vide en ses éléments. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose... Donc, on décompose le vide en électrons, positrons, et puis, on matérialise la lumière. Et ça, c'est bien sûr à des intensités extrêmement élevées, de l'ordre de 10 puissance 30, 29, 30 watts par centimètre carré. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de... le fait de pouvoir amplifier la lumière de ces façons-là va conduire, vous allez voir, à des applications qui sont absolument étonnantes, aussi bien pour la science que pour la société. Voilà. Alors, je commence un petit peu, ça c'est le beginning, pour l'utilisation du laser en micro-machining, en usinage. Hein, parce que ça, c'est amusant, mais ça a énormément d'applications. Hein. Et donc, juste pour vous donner une idée, les lasers qui font la femtoseconde, hein, comme je dis, la durée des impulsions que nous utilisons font quelques femtosecondes. Hein. On parle ici de... et avant, les impulsions étaient de la picoseconde, c'est-à-dire 10 moins 12, ou de la nanoseconde. Alors, pour l'usinage, par exemple, on utilise des impulsions qui font de la nanoseconde. Et là, vous voyez, bon, les trous là, qu'on fait ne sont pas extraordinaires, hein, parce que en une nanoseconde, les choses bougent. On peut vraiment augmenter la température des matériaux, mais aussi, bon, les choses bougent, donc ça, on a des résultats qui sont décevants ici. Par contre, si on prend des impulsions centaines de femtosecondes, hein, c'est-à-dire là, les choses, l'interaction avec la matière devient excessivement nette, précise, etc. Et c'est extraordinaire, c'est qu'on peut faire des choses maintenant où on peut faire des trous dans la céramique ou dans les verres, des choses comme ça. Alors qu'on peut usiner les verres ou des choses comme ça, c'est difficile. Et c'est avec une précision extraordinaire. Et bien sûr, l'application reine, c'est l'ophtalmologie, hein, où on peut faire de la... Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est tellement... C'est important. Bien qu'on soit dans une conférence scientifique, là, c'est important, donc je la mentionne. On peut faire de la découpe, par exemple, de la cornée. Hein, et de façon, si on veut, par exemple, vous voulez changer vous en avez assez de vos lunettes et vous voulez changer la courbure de la cornée, eh bien, vous pouvez aller avec le laser et puis traiter, faire une découpe telle que vous allez corriger la cornée, la courbure de la cornée. Et maintenant, bien sûr, il y a des millions, il y en a 2-3 millions par an. Il y a 2-3 millions de personnes qui subissent l'opération avec l'ophtalmologie. Donc ça, c'est très important, bien sûr. Maintenant, on va passer dans le domaine rouge et le domaine jaune, là. On a vu que le champ électrique est produit par... Donc, on sait que le laser, bien sûr, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Hein, donc, il y a le champ électrique et le champ magnétique, bien sûr. Et bien sûr, il y a ces électrons qui sont agités par ce champ électrique et ce champ électromagnétique. Alors là, par exemple, quand les intensités sont basses, on voit le champ électrique qui agit sur ces électrons. Ces électrons se déplacent de haut en bas, etc. C'est très peu, quoi. Mais quand on augmente le champ électrique jusqu'à ce que ces électrons, donc la vitesse, le quiver énergie est telle qu'elle est de l'ordre de grandeur donc du m0 c square, elle est, l'impulsion, se, maintenant, les électrons se déplacent à la vitesse de la lumière. Et s'ils se déplacent à la vitesse de la lumière, quand vous avez la force de Lorentz que j'écris là, avec E plus V cross C, sur le vecteur B, eh bien, il va y avoir les électrons qui vont s'agiter comme ceci, mais aussi qui vont être poussés dans cette direction à cause du V vectoriel B. Et donc, ils vont donc se déplacer le long de l'axe de propagation. Donc, et c'est pour ça que cet déplacement est vraiment excessivement important, et c'est ce qui donne la possibilité au laser d'amplifier, maintenant d'accélérer les particules, comme je vais vous le montrer. Ça, c'est une très très grande application. Voilà. Alors, pour accélérer donc les particules, donc pour accélérer les électrons, au départ, on va finalement, c'est une invention de Tajima et Dawson, Tajima qui est un très très bon ami, et Dawson, et finalement, le laser va perturber une onde plasma et créer une vague, une onde plasma, où là, les électrons, maintenant, vont faire comme des surfeurs, vont être pris par la vague et vont être accélérés. Et ce concept extrêmement important et extrêmement efficace, alors c'est très très simple, c'est ça qui est beau, c'est qu'on prend ce laser maintenant, donc un laser qui fonctionne à des intensités importantes, de l'ordre de 10 puissance 18 watts par centimètre carré. C'est là où les électrons deviennent relativistes. Et donc on éclaire donc le jet du gaz et on le transforme, on l'ionise, donc on crée un plasma. Et à ce plasma va lui être associée une onde plasma où maintenant les électrons qui constituent le plasma vont tomber dans la vague et vont être transportés à la vitesse de la lumière. De façon très importante, mais avec une efficacité qui est énorme. Là, on parle du GeV par centimètre. L'accélération, c'est de l'ordre du GeV par centimètre. Alors, bon, peut-être que vous ne trouverez pas ça très important, mais si vous considérez le synchrotron Soleil qui est là, qui fait un kilomètre, grosso modo, de circonférence, mais il ne fait pas un centimètre. Donc, on peut mettre. Donc, maintenant, on peut produire des particules avec des gigahertz, des dizaines de gigahertz, de gigaélectronvolts, pardon, gigaélectronvolts, très facilement. Avec le laser. Et c'est aussi extrêmement compact, bien sûr. Par exemple, là, si on regarde maintenant le LHC, c'est 27 km. 27 km. Et c'est 27 km parce qu'on utilise les radiofréquences, des fréquences. Du gigahertz. Bien sûr, les fréquences optiques, c'est du pétahertz. Et donc, on est obligé, donc il fait 27 km parce que justement, on travaille à des fréquences très basses du gigahertz. Okay. Et avec le laser, bon, maintenant, on peut travailler avec des fréquences qui sont de 10 puissance 14, 10 puissance 15, Et alors, on peut diminuer avec le Wakefield, on appelle ça Wakefield, accélération, on peut diminuer la taille des accélérateurs, on va pouvoir éliminer la taille des accélérateurs d'un facteur, quelque chose de plusieurs milliers de fois. Donc c'est considérable. Alors, c'est en fait l'accélération, elle est fonction de la densité du plasma. Okay. Alors, quand on prend un plasma, un gaz, les densités sont de l'ordre de 10 puissance 18. Donc, en général, le gaz, c'est un gaz neutre, hein, gaz avec noble gaz. Et c'est des densités de 10 puissance 18 watts, 10 puissance 18 particules par cubique centimètre. Mais maintenant, si on fait la chose, on va montrer que ça, c'est parce que on a le laser est visible. Et c'est parce qu'il est visible qu'on est, on est obligé de travailler avec des jets de gaz donc, qui, où il y a une densité de 10 puissance 18. Mais l'idée, bien sûr, ça serait, ce qui serait extraordinaire, c'est de que le plasma soit solide. Hein? Et donc, c'est ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va donc travailler avec des plasmas solides. Et si un plasma est solide, alors là, on va passer à des densités, pas 10 puissance 18, mais 10 24. Hein? Donc, on va encore augmenter de plusieurs milliers de fois l'efficacité de notre accélération. Donc là, ici, comme je disais, une impulsion, elle est constituée de quelques cycles. Dans notre cas, elle est constituée typiquement sur des impulsions d'une dizaine, vingtaine de cycles. Chaque cycle fait 2 femtosecondes. Alors, on sait comment, prélever un cycle. On sait faire des impulsions, c'est-à-dire on peut comprimer les impulsions de départ qui font une vingtaine de femtosecondes, c'est-à-dire qui font une dizaine de cycles. On sait le comprimer en un seul cycle. Okay. Et si on fait ça, eh bien on va pouvoir comprimer encore l'impulsion. On va pouvoir passer de la femtoseconde à l'attoseconde, à la zeptoseconde. C'est donc ce dont je vais parler là. Alors, comment comprimer cette impulsion? Donc, on parle de l'impulsion qui fait un cycle. Alors, mais elle est très intense, cette impulsion. Donc, si cette impulsion, on l'envoie sur une cible plane, hein, donc bien sûr qui est peuplée d'électrons et d'ions, hein, c'est-à-dire de particules négatives et positives, eh bien cette impulsion va presser ce milieu qui est constitué d'électrons et de protons, essentiellement. Donc là, on voit la lumière va donc presser le milieu, et les électrons vont partir dans cette direction, les ions vont rester parce qu'ils sont beaucoup plus lourds, ils sont des milliers de fois plus lourds que l'électron. Ils vont rester en arrière et vous allez développer un champ électrique très important. Et c'est ce champ électrique qui va maintenant prendre les électrons et puis les, les diriger dans la direction opposée au laser, à l'impulsion laser. Et ceci va produire, c'est comme si vous avez, donc et il va les, en fait il va les déplacer à la vitesse, grosso modo à la vitesse de la lumière. Hein. Donc vous avez, c'est pratiquement ce que vous avez fait, c'est une espèce de miroir, l'impulsion en pénétrant ce plasma, en le poussant, va en fait former un miroir sphérique qui va se déplacer à la vitesse de la lumière. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, vous avez... Vous avez donc l'onde incidente qui vient donc pousser donc les électrons vers l'avant et finalement, en établissant ce champ très important. Et donc maintenant, les ions vont rappeler ces électrons. Et donc, vous avez un miroir maintenant qui est relativiste. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez la lumière qui est relativiste, qui arrive dans cette incidente, qui arrive dans cette direction-là. Et vous avez maintenant un miroir qui est relativiste, qui va dans cette direction-là. Et ceci, ça va, et c'est relativement facile à montrer, ça va provoquer une compression. La compression, ici, de l'impulsion incidente va être comprimée par le facteur de Lorentz, qui, dans notre cas, est de milliers. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant... On était déjà à une des impulsions qui faisait de la toseconde, qui faisait de la femtoseconde. Maintenant, on peut aller bien à l'attoseconde et en dessous. Et donc, ici, on voit la durée des impulsions qui est 600 divisé par le normalized vector potential. Hein. Et ça, dans notre cas, c'est des milliers de fois. Et donc, on peut comprimer l'impulsion incidente de quelques milliers. Et donc, les simulations montrent, enfin, on n'a pas encore fait des expériences complètement, mais pour des facteurs normalized vector potential de 10 puissance 3, par exemple, qui correspond à 10 puissance 20, quelque chose qu'on peut créer, eh bien, ça nous donne des impulsions de la zeptoseconde, 10-21. C'est ce que nous pourrions atteindre maintenant. On n'en est pas là encore, mais on y arrive. Donc, si vous avez une, mais donc vous avez ces impulsions, vous pouvez produire ces impulsions de quelques de zeptoseconde maintenant. 10-21. Alors, si vous avez, par exemple, et vous produisez un joule en une zeptoseconde, bien sûr, l'impulsion, elle fait le zeta-watt. Hein. Mais ce n'est pas tout. C'est que maintenant, le zeptoseconde, c'est 10-21. C'est donc la période du gamma. C'est-à-dire que vous avez produit maintenant un laser. Un nouveau laser, c'est un laser gamma, hein, qui émet des impulsions ultra brèves dans le domaine gamma. Et ce sont des impulsions qui sont cohérentes. Aussi. Donc c'est quelque chose d'absolument... les perspectives de ça sont absolument extraordinaires. Donc, parce que c'est du gamma, maintenant, on va pouvoir faire l'accélération de particules dans des plasmas solides, c'est-à-dire des plasmas qui ont des densités très élevées. Et là, on devrait avoir maintenant, on devrait pouvoir atteindre le tève par centimètre. Le tève, le LHC du CERN, c'est le tève. Et maintenant, on pourrait, en principe, le mettre sur un centimètre. C'est prodigieux. Donc, en plus, alors là, je dis ça encore, mais en plus, il y a, bien sûr, si on prend cette impulsion aux états watts et qu'on la focalise sur une tâche diffraction limitée, bien sûr, dans le domaine gamma, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer simplement, mais on doit arriver facilement à ces fameuses intensités de Schwinger, hein, où là maintenant on break down the vacuum. Donc la lumière maintenant de matière devient antimatière, et c'est extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, puisque on peut produire ces champs électriques excessivement élevés, on peut produire ces rayons, on peut accélérer les particules de façon prodigieuse, et aussi on peut produire des radiations dans le domaine X, gamma, etc. Bien sûr, on pense tout de suite aux applications cosmologistes. Et on se dit, ben, on peut faire de la cosmologie expérimentale dans le labo maintenant. Alors, première chose qu'on pense, c'est que si on peut faire, par exemple, si on a des gamma ray bursts, GRB, ok. Et bon, ces GRB, normalement, ils durent, je ne sais pas, vous le savez mieux que moi, mais c'est... C'est des secondes, des minutes, des choses comme ça. Bon, si vous voulez maintenant vérifier la dispersion du quantum vacuum, il vous faudra vraiment une distance énorme pour faire séparer toutes les fréquences qui consistent en ce GRB. Donc il faudra qu'elles se propagent des millions d'années, quoi. Mais si vous avez maintenant, si vous êtes capable de faire des impulsions maintenant directement qui font 10^21 secondes, donc il y a un spectre aussi très important, eh bien à ce moment-là, c'est les distances que la lumière a à parcourir, la lumière la lumière gamma à parcourir. Maintenant, pour observer la dispersion, ça serait seulement de quelques kilomètres. Hein? Donc, c'est assez fabuleux. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, comme je disais, si on peut produire des particules vraiment avec une énergie qui est considérable, aussi, bon, on peut actuellement, si on veut par exemple des particules qui sont à 10^20 ou 10^20 GeV, bon, ben, il y en a que quelques-unes, on sait bien, il y a quelques-unes par kilomètre et par année qui tombent. Donc, maintenant, on a la chance, on a la possibilité, hein, de les fabriquer et de produire ces particules. Et alors après, on pourrait aussi penser à faire des trous noirs analogues. Parce que nos impulsions, elles font la femtoseconde. 10^15 secondes, même moins, hein, parce que on a vu, mais enfin ça serait de l'atoseconde, hein, l'atoseconde. Et en une atoseconde, eh bien, on accélère ces particules, bien sûr, à vitesse de la lumière. Donc on a bien sûr des accélérations qui sont G géante, de l'ordre 10 puissance 24 G. Et alors là, bien sûr, on peut évoquer le principe d'équivalence. Et on peut étudier, si on arrive à faire des trous noirs analogues, on se doute qu'on peut trouver des applications à ceci, mais se retrouver dans des situations comme ça, où on a des accélérations absolument énormes qui conduisent à des gravités très très importantes, où la masse gravitationnelle est très 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 grande. Il y a des perspectives là encore très très importantes. Et tout ça, c'est avec la lumière. Maintenant, il y a des choses qui sont très très importantes. On va passer aux applications maintenant. Alors, on a parlé de l'accélération de particules comme les électrons, etc. Il faut voir aussi qu'on peut accélérer des protons. Alors, pour accélérer des protons, c'est très simple, avec nos impulsions qui sont excessivement intenses. Eh bien, on focalise nos impulsions sur un film de quelques dizaines de nanomètres. À ce moment-là, la force pondéromotrice va presser sur les électrons et va attirer les ions positifs derrière elle, et donc va les attirer à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'ils vont devenir de l'ordre du GeV. On peut fabriquer des protons au GeV. Et alors, on sait, et avec des impulsions de quelques cycles. Donc, on sait ce que c'est que les accélérateurs au GeV. Ça, c'est un accélérateur, par exemple, du projet MIRA, qui accélère des protons au GeV. Mais la taille, c'est le kilomètre, ou c'est 600 mètres, 800 mètres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors que, avec le laser, on peut faire ça sur vraiment des distances et des extrêmement compactes. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Alors, une fois qu'on a... Si on peut faire, par exemple, maintenant, des protons au GeV, ou à une fraction de GeV, on pense à toutes ces applications merveilleuses en médecine, comme la médecine nucléaire, faire, par exemple, la protonthérapie. La protonthérapie, c'est quand même la thérapie la plus simple, la plus belle, en fait, parce que la thérapie à protons, c'est pas comme avec les rayons X ou avec les rayons avec les électrons, il n'endommage pas les parties extérieures. On peut brûler que la partie qui est à brûler sur la tumeur, mais on n'endommagera pas tout les tissus extérieurs qui sont sains. Ensuite, on peut la production de radionucléides aussi, on peut faire facilement. Et là, quand on veut faire de la radioactivité avec des pellets, et où on veut loger ces pellets qui sont radioactifs dans la tumeur, on peut utiliser des lasers qui sont simples. Et ensuite, on peut faire aussi pour le diagnostic et tout ça. Donc, vraiment, il y a des applications qui sont extraordinaires, qui attendent. Une très belle application, bien sûr, aussi, c'est dans l'environnement. Comment produire maintenant, comment faire de l'énergie, extraire, produire l'énergie nucléaire sans bien sûr avoir tous les inconvénients. Alors, là, je vais en parler, je vais dire quelques mots. Je parle du... il y a l'uranium, bien sûr, mais il y a le thorium, qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, si on prend... Après, ça va être mon dernier exemple. Si on prend une centrale nucléaire d'un gigawatt, eh bien, il faut un train de 100... il faut une centaine de trains de 100 wagons pour produire 1 gigawatt pendant une année. Parce qu'il faut 3 millions de tonnes de charbon. Maintenant, bien sûr, si vous prenez l'uranium, c'est pratiquement 1 million de fois moins, ou quelques centaines de milliers de fois moins. Donc, on descend de 300 millions de tonnes à 300 tonnes. Donc, c'est très intéressant, bien sûr. Et si on utilise le thorium, à ce moment-là, pour produire ce gigawatt pendant une année, il ne faut plus qu'une tonne. Donc, c'est très intéressant. Donc maintenant, la chose importante que je n'ai peut-être pas insisté, c'est le fait de pouvoir produire des protons. Alors, je vous ai montré comment on produisait ce qui était important, c'est de produire des neutrons. Alors, je vous ai montré comment produire des protons. Donc, avec ces impulsions, avec quelques cycles très, très intenses, où on peut produire maintenant des protons de façon simple. Et une fois qu'on a les protons, eh bien, par spallation, on peut produire des neutrons. Il faut, pour des protons d'un GeV, par exemple, il faut à peu près 30 MeV par proton. On peut produire avec un GeV, un proton d'un GeV, on peut produire une trentaine de neutrons. Et donc, on peut maintenant, une fois si on fait les choses correctement, produire suffisamment de neutrons pour ensuite, maintenant, faire ce qu'on fait. On peut faire de la fission, maintenant. Et on peut faire de la transmutation. Pardon, je vais commencer par la transmutation. Quand on fait de la fission, on crée ces actinides mineurs qui sont extrêmement dangereux. Et ça se fait, les actinides mineurs, c'est lorsqu'on utilise les neutrons là, pour la fission, normalement. Eh bien, les neutrons vont casser le noyau pour en faire des fragments de fission. Mais aussi, il y a quelques neutrons qui vont venir se loger dans le noyau de l'uranium ou du thorium, etc. Et à ce moment-là, on a un nouvel élément qu'on les appelle les transuraniens, on les appelle les actinides mineurs. Et c'est ces actinides mineurs qui ont une vie très longue, des millions d'années. Et donc, c'est ça qu'il faut s'en débarrasser. Ces déchets radioactifs dont on parle énormément. Et donc maintenant, pour s'en débarrasser, on peut faire de la transmutation. C'est-à-dire qu'on va... on va pouvoir casser ces noyaux maintenant d'actinides mineurs. Et on utilise les neutrons qu'on a fabriqués. Et voilà, donc on va transmuter par exemple un élément comme le neptunium. on va le casser, on va le transformer en d'autres éléments. Voilà, ça c'est l'importance d'avoir, il faut absolument être capable de fabriquer ces neutrons. Ensuite, pour pouvoir les utiliser pour la fission et puis aussi pour la transmutation. Et bon, maintenant je vais un peu m'arrêter là. Et une dernière chose dont je voudrais parler, après j'arrête, c'est l'idée de ce débat. Vous savez que depuis que l'ère spatiale a commencé en 1957 avec Gagarine et le Spoutnik, eh bien, il y a eu l'équivalent de 4 tours Eiffel qui ont été envoyées dans l'espace. Et sur les 4 tours Eiffel, il y a à peu près la moitié d'une tour Eiffel qui est sous forme de débris. Et ces débris, bien sûr, se déplacent à 10 fois la vitesse du son, et autour de la Terre, etc. Et bien sûr, c'est très important de pouvoir s'en débarrasser. Et les lasers qu'on est en train de développer, justement pour toutes les applications dont j'ai parlé, on peut absolument l'utiliser pour ces débris. Je vais m'arrêter là, mais j'espère vous avoir fait voir que toutes les applications qu'on peut avoir avec la lumière, mais avec la lumière ultra intense. Voilà. Et alors, quand on a le prix Nobel, on est invité bien sûr de partout, et on a été invité par le pape à une audience, une demi-heure, c'était super. Bon, on a dit, bien sûr, on a tout de suite dit oui, c'est génial, etc. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va lui raconter au pape? Alors, ce qu'on a décidé, c'est finalement ce que je vous ai dit, la possibilité de produire l'énergie de façon propre, le nettoyage de l'espace, etc. Et donc, et puis toutes les applications médicales qu'on peut utiliser pour avec toute la création de nucléaires, etc. Tout ça. Donc il y a toutes ces applications, et donc il était content, il dit oui, c'est fort, c'est fantastique. Voilà. Donc en conclusion, la lumière extrême. Enfin, là, je reprends le motto de Nobel qui dit oui, son prix, ils veulent dédier à qu'il soit utilisé à la découverte de découvertes qui vont donner l'opportunité des grandes opportunités pour le futur de l'espèce humaine. Voilà. Je vais arrêter là. Merci beaucoup.
Eh bien, merci, Jérôme, oui, pour cette vue ensemble donc, sur la lumière extrême, les lasers extrêmes et leur application. Donc, le pape, il a eu une demi-heure. Nous, on a eu une heure. Donc, merci, on a eu deux fois plus que le pape. Alors, j'ai pas énormément de commentaires et de questions sur le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez. Y en a-t-il dans la salle des questions, des commentaires? Oui.
Merci pour cette conférence. Mais j'ai pas tellement bien compris comment on pouvait se débarrasser de débris dans l'espace avec un laser.
Alors, je vais vous montrer.
Merci.
Parce que je ne l'ai pas montré. J'ai une slide que j'ai, à cause du temps, que je n'ai pas montré. J'espère que je l'ai, là. Alors, Donc, là, je vais vous montrer, pour démontrer ce que je veux pour vous, je vais vous montrer une expérience qui a été faite par les Chinois. C'était dans les années... c'est dans les années 80, etc., où les Chinois ont voulu détruire, montrer qu'ils étaient capables, avec un missile, un de leurs missiles, de détruire une station, enfin détruire un objet, ou un autre missile, je crois, un autre missile, avec leur missile. Ils ont voulu montrer ça. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient compte, il y avait... Quand les gens qui regardent les débris, parce qu'ils ont vu une accélération des débris absolument fantastique. Et maintenant, depuis ce moment-là, les débris ont été pris très, très au sérieux. Et donc, il faut des débris, il y en a de toutes sortes. Hein. Des débris, il y en a qui sont gros comme une machine à laver. Ou bien qui ont de l'ordre du centimètre. Alors, les gros, ben, il y en a peut-être une dizaine de milliers, ou une cinquantaine. Mais les petits, qui font de l'ordre du centimètre, il y en a des millions. Et ça, c'est bien sûr... C'est difficile pour s'en débarrasser. Parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'ils sont petits. Mais avec le laser, ce qu'on peut faire, vous allez voir... on peut, dès qu'on voit, on aperçoit un débris, on peut le détecter. Hein, à ce moment-là, on peut envoyer un des lasers que j'ai montré, mais pas, non, je ne l'ai pas montré dans le détail, mais donc est capable de délivrer une énergie qui ne va pas briser le débris. Parce que si on brise le débris, on crée encore d'autres débris. Donc, on ne peut pas faire ça. Par contre, si on fait une petite ablation avec le laser sur le débris, supposez que vous avez un débris qui fasse quelques centimètres, on peut le voir, hein, pas sur Terre, mais quand on est une station spatiale, on peut le voir, qui fait quelques centimètres, ben on peut envoyer le laser... pour faire une ablation, et cette ablation va produire un effet fusée, et cet effet fusée va déorbiter le débris, va changer l'orbite du débris. À ce moment-là, il va tomber dans l'atmosphère, comme font tous les météorites qui tombent sur nous, et donc vont être brûlés dans l'atmosphère. Ça, c'est la technique qu'on préconise parce qu'on a ce type de laser. Voilà.
On n'a pas fini si on fait ça, parce qu'il y a des débris comme ça, il y en a quand même énormément.
Il y en a énormément, oui. Oui, oui.
C'est réaliste.
Mais il y en a beaucoup, bien sûr. Mais bon, mais on a le temps. On n'est pas à la pique aux secondes.
Non, d'accord, ce n'est pas des piques aux secondes, mais alors le temps, moi, j'ai l'impression que ce sera un temps énorme, des siècles et des siècles.
Ah, ben ça va prendre. Non, mais maintenant, c'est-à-dire, il faut d'abord maintenant surveiller de ne pas en faire. Hein, parce qu'il y a une difficulté lorsqu'on veut détruire un débris. Il y a, sur le point de la loi, on ne peut détruire dans l'espace que ce qui nous appartient. Donc, quand vous voyez un débris, vous ne savez pas à qui il appartient. Alors, il faut aussi une technique qui nous aide à identifier la technique. Alors, nous, c'est justement en utilisant le laser, parce qu'avec le laser qui crée ce jet de gaz, hein, cet effet de fusée par l'ablation, par spectroscopie, on peut connaître l'identité du débris. Et on peut remonter à qui l'a fait, quoi. Et donc, c'est une façon d'essayer de trouver l'identité du débris. Voilà. Alors, je peux vous montrer maintenant ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'ont fait les Chinois donc dans les années 80 ou 90. Voilà. Alors là, Oui, c'est que je n'ai pas... Donc ça, c'est... Ça, c'est le satellite qui est détruit par un missile chinois et qui a créé des millions de débris. Alors maintenant, on utilise ce laser-là qui est tout à fait particulier. Et c'est un laser, j'en dirai un mot. Et donc, dès qu'on voit un débris, on envoie une petite pichenette, on fait l'ablation du débris, et le débris est déorbité. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé du laser, parce qu'il est tout à fait spécial. C'est un laser, en fait, qui est composé de fibres. Pourquoi il est composé de fibres ? Parce qu'il faut pouvoir le refroidir. Et si on utilise beaucoup de fibres, et ça, on est très bon, on peut mettre des fibres en phase, hein, des dizaines de millions de fibres, de fibres en phase. Hein, et le matériau, la fibre va se refroidir beaucoup plus rapidement parce que le rapport entre surface et volume dans la fibre est très important. Donc on accélère le refroidissement.
D'accord, merci. Dans les commentaires sur YouTube, il y avait des personnes, plusieurs fois, vous avez parlé de protons, d'électrons qui étaient accélérés jusqu'à la vitesse de la lumière.
Oui, bien sûr.
C'est jusqu'à la vitesse ou presque jusqu'à la vitesse de la lumière, en fait ?
Ah ben, il y a des facteurs de Lorentz qui sont énormes.
Absolument. Pas complètement jusqu'à la vitesse de la lumière.
Ah ben ça, non, c'est bien, c'est pas possible.
Il y a des gens qui réagissaient là-dessus.
C'est pas possible, on a des facteurs de Lorentz de quelques milliers.
D'accord.
Donc on est très très près.
Tout à fait.
Tout à fait. On est très très près.
Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle ? Alors il y en a plus. S'il y en a un, je vous en prie.
Oui, bonsoir. Peut-on utiliser l'extrême lumière pour l'hyperpropulsion de vaisseaux spatiaux, par exemple ?
La propulsion ?
De vaisseaux spatiaux.
Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je pense pas que ça soit actuellement. Les vaisseaux spatiaux, on peut les déplacer justement avec la lumière, comme font les météorites. Hein, je crois que ça sera difficile de faire ça avec la lumière parce que ça, l'efficacité, ça pas très bonne. Donc il faut embarquer l'énergie. Hein. Si on considère le soleil, il va falloir avoir des capteurs très très importants.
Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires dans la salle ? Oui.
Bonsoir. Vous disiez que pour réduire les déchets nucléaires, on va les transmuter pour qu'ils aient une demi-vie bien moindre.
Bien moindre, et en les cassant.
En les cassant. Et donc, il me semblait me souvenir que... La transmutation, c'est quand on rajoute des protons, pas des neutrons.
On utilise les neutrons pour fissionner les noyaux.
D'accord, j'avais mal compris.
Donc on tombe dans la fission, si vous voulez.
Une autre question en haut ?
Parce que, bon, il y a le...
Oui, ma question, c'est à propos du phénomène même de laser. Est-ce que la lumière laser, c'est quelque chose qui existe en dehors de la production technologique que nous en fait ? Est-ce que c'est un phénomène qui se produit, par exemple, dans les étoiles ou est-ce que c'est vraiment...
Alors oui, il y a des choses qui ont été dites là-dessus, mais... Je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il y a des travaux, des observations, où les gens ont déduit qu'il peut y avoir de l'émission stimulée, etc., qui était à la base du laser. Oui. Mais c'est l'émission stimulée, parce que, bon, un laser, il ne faut pas oublier, c'est quand même composé d'un matériau actif, et puis après, de miroirs. Hein. Donc, il faut que ça, tout ceci... Mais je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir pourrait avoir une situation, si on rêve beaucoup, au laser.
Alors, a-t-on une dernière question, un dernier commentaire dans la salle ? Non ? Eh bien, je vous propose d'arrêter là. Donc, merci de nouveau. Et puis, nous nous retrouvons donc le mois prochain avec Florian Leclerc. Merci. Bonsoir.